Chapitre 5e. Il y avait à peu près une heure que la tante Toucha était partie, et M. Marguerite surveillait ses ouvriers, lorsque le portier vint le prévenir qu'on le demandait. « Qui, des parents ?» dit M. Marguerite, qui pensait à la rentrée. « Monsieur Radou !» répondit le portier. Au premier étage, M. Marguerite ouvrit la porte de son appartement, où se trouvaient en ce moment sa mère et sa fille. « Hélène » cria-t-il du seuil. Hélène était avec sa grand-mère dans la chambre de celle-ci. Elle a couru à l'appel de son père. « Tu as besoin de moi ?»« Radou vient d'arriver. » Monsieur Radou, qui attendait dans le salon, où d'ordinaire on recevait les parents, était un beau jeune homme de 24 à 25 ans, très soigné dans sa tenue, peut-être même trop soigné, au moins pour un homme du monde. Redingote noire non boutonnée, gilet en cœur laissant voir le plastron de la chemise, pantalon gris mastic, gants de chevreau jaune, manchette bien empesée recouvrant la moitié de la main. Pendant tout le temps qu'il était resté seul, au lieu de regarder les livres placés sur la table ou les cadres accrochés au mur et qui représentaient, les uns, des modèles d'écriture avec entourage d'oiseaux et de feuillage à la plume, les autres, des sujets académiques au crayon noir et au fusain, il s'était regardé lui-même dans la glace et s'étant déganté de la main droite, il avait à plusieurs reprises passé ses doigts dans ses cheveux frisés pour les faire bouffer. Puis, à plusieurs reprises aussi, il avait élevé, droite au-dessus de la tête, sa main dégantée et l'avait agitée vivement pour faire descendre le sang qui la rougissait. Alors, à mesure qu'elle blanchissait, il l'avait complaisamment admirée. C'était à cela qu'il s'occupait pour la quatrième ou cinquième fois et toujours avec un plaisir nouveau, lorsque la porte du salon s'ouvrit. S'interrompant aussitôt, mais sans se troubler, il vint au-devant de M. Marguerite, sa main droite tendue, et la regardant avec un sourire de satisfaction, elle était blanche. « Comment vous, mon cher Radou ?» dit M. Marguerite d'un ton affectueux. « Vous ne m'attendiez pas de si tôt ?»« Il est vrai. J'ai voulu avoir le temps de m'organiser avant la rentrée. Je ne vous demande pas de vos nouvelles, car je vois votre belle mine florissante, que vous êtes toujours bien portant. Mais, mademoiselle Hélène, comment est-elle ? « Très bien, vous allez la voir, car vous dînez avec nous. Mais, pas de mais, vous arrivez, vous ne connaissez que nous à Condé, vous nous appartenez. Alors j'obéis, pour la discipline, et aussi pour mon plaisir. » Si la phrase était prétentieuse, la manière dont elle fut dite l'était plus encore. Mais M. Marguerite ne fit attention, bien évidemment, qu'au sens même de la réponse. Son invitation était acceptée, cela lui suffisait et le satisfaisait. « C'est parfait, c'est parfait. » « Vous savez que je suis de Condé. Demandez-moi donc tous les renseignements qui peuvent vous être nécessaires. »« Avant de rien demander, je dois commencer par vous remercier. »« Vous m'avez écrit pour m'envoyer vos remerciements. »« Ce n'est point assez. Je dois, je veux, vous les réitérer de vive voix. »« S'il vous a été agréable de venir à Condé, moi, il m'est agréable de vous avoir, et de plus, cela m'est utile. Où aurais-je trouvé un professeur de votre valeur ?» Je veux relever ce collège et n'épargner rien pour que l'enseignement des sciences soit à la hauteur de celui des meilleurs lycées. Vous êtes donc mon homme, et vous voyez qu'en vous demandant, j'ai eu mon intérêt en vue. Je pourrais m'en tenir là dans ma réponse, mais je ne serais pas complet. À cette raison officielle, s'en joignait une autre personnelle, mon cher Radou. Disant cela, M. Marguerite tendit la main à son cher Radou et celui-ci, la lui ayant prise, la serra avec effusion. « Lorsqu'il y a 3 mois, continua M. Marguerite, vous m'avez fait part de vos intentions, de mes espérances, de mes rêves plutôt, interrompit Radou. Je vous ai répondu, continua M. Marguerite, que plusieurs raisons m'empêchaient de marier ma fille en ce moment. Son âge d'abord, car c'est chez moi une conviction arrêtée, qu'à moins de motifs impérieux, il ne faut pas marier une jeune fille trop tôt, et qu'il est sage, sous tous les rapports, qu'elle ait atteint sa 20e année. Ma situation, ensuite, qui ne me permettait pas de faire pour son établissement ce que je voulais. Vous avez vous-même reconnu le bien fondé de ces raisons. Je me suis incliné devant votre volonté, si formellement exprimée, car pour moi, ces raisons n'étaient pas déterminantes, comme elles l'étaient pour vous, particulièrement celles tirées de votre situation présente. Enfin, mon ami, il a été convenu avec vous, n'est-ce pas ? Que sans repousser votre demande, je ne l'accueillais pas, c'est-à-dire que nous devions attendre. Pendant ce temps, vous pourriez apprendre à mieux connaître ma fille, vous feriez votre examen de conscience et vous verriez quel sentiment vrai elle vous inspirait, si vous avez été sincèrement attiré vers elle par sa beauté, ce qui n'est guère suffisant quand il s'agit d'une femme qu'on veut épouser. Ou bien, si vous éprouvez un amour sérieux, une estime raisonnée, qui sont les seules bases solides d'un bon mariage. De son côté, ma fille, qui n'a pour vous que des sentiments de sympathie, apprendrait aussi à vous connaître et puiserait dans cette connaissance, cette estime et cette confiance que je veux chez elle comme je les veux chez vous. En un mot, s'il n'y avait pas entre nous ce que les prêtres appellent aux prônes promesses de mariage, au moins y avait-il projet de mariage. Mais pour que ce projet pût être mené à bonne fin, il y avait une condition essentielle qui était que nous pourrions nous voir et vivre dans une certaine intimité. Or, si vous restiez dans l'Est, ou bien si vous alliez dans le Midi pendant que nous serions dans l'Ouest, cette intimité était impossible. C'est ce qui m'a fait vous demander s'il vous convenait d'être nommé à Condé, et c'est aussi pour cela que j'ai travaillé de toutes mes forces à votre nomination non seulement comme principal de ce collège, mais encore comme père. Et c'est au père, plus encore qu'au principal, que j'adresse mes remerciements. Ne parlons plus de cela. Vous voilà à Condé, nous allons pouvoir mener cette vie d'intimité que je voulais. Si après un certain temps d'expérience, vous êtes toujours dans les mêmes idées. D'autre part, si Hélène passe de la sympathie à un sentiment plus tendre et plus sérieux, nous reprendrons nos projets de mariage et nous parlerons affaires. En ce moment, nous en sommes au même point. C'est-à-dire que nous n'avons rien ni l'un ni l'autre et que, pas plus que moi, vous n'avez d'héritage certain à recueillir. J'ai ma position qui va s'améliorant, comme j'ai la mienne qui ira s'améliorant aussi, ce qui me permettra de donner une dot à ma fille. Maintenant que l'essentiel est dit et convenu entre nous, je vais appeler Hélène. Elle sera heureuse de vous voir. Et pendant que M. Marguerite donnait ses ordres à un domestique, le jeune professeur se regardait dans la glace, et après avoir remis en place les mèches de sa chevelure noire, il secouait de nouveau sa main pour la faire pâlir. Hélène ne tarda pas à arriver, mais si elle fut heureuse de voir celui qui voulait la prendre pour femme, ce fut d'un bonheur discret, qui ne se trahit au dehors par rien de bien caractéristique. Elle lui tendit la main en entrant, et ce fut avec un aimable sourire qu'elle répondit au compliment apprêté qu'il lui adressa. Mais ni dans son accent, ni dans son regard, il ne se montra rien qui parlât d'amour. Tant que se prolongea la visite de Radou, elle garda un calme parfait, s'entretenant avec lui comme elle l'eût fait avec un camarade. Évidemment, il y avait loin encore de cette sympathie aux sentiments tendres dont son père avait parlé. Et cependant, Radou paraissait enchanté. Mais était-ce d'Hélène qu'il était content, ou bien était-ce de lui-même ?